merci, je passe au point numéro 1. Et le point numéro 1, je demande à rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Rapporteur, Madame Annie Hommel. Entre les femmes et les hommes, exact.
Monsieur le maire, chers collègues, l'égalité des femmes et des hommes est un droit inscrit dans la Constitution de 1946. Dès 2009, la ville de Metz s'est engagée dans une dynamique de prévention des discriminations et de promotion de l'égalité, à travers l'adoption d'un plan de prévention et de lutte contre les discriminations. Vous avez en main actuellement le rapport de situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il présente un premier état de la situation en notre collectivité. Ce rapport s'appuie sur un volet interne en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, au regard de la politique de ressources humaines, et sur un volet territorial qui porte sur les politiques d'égalité conduites par la collectivité sur le territoire communal. Un protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013, a pour finalité de la rendre effective. Et ceci selon quatre axes, je le rappelle, un dialogue social structurant, l'observance de l'égalité dans les rémunérations et les parcours professionnels, une bonne articulation de vie professionnelle et de vie publique, ainsi que la prévention des violences aux agents sur le lieu de travail. La municipalité de Metz s'engage au quotidien pour améliorer l'égalité. Le diagnostic initial qui vous a été remis permettra de définir un plan d'action spécifique pour amplifier l'engagement de la ville en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des services municipaux et des politiques publiques municipales. La motion est en conséquence.
Merci, madame. Alors, j'ai un grand nombre d'inscrits. Madame Grollet, monsieur Aldrin, madame Nicolas, madame Zimmermann, monsieur Cambianica, madame Bory, madame de Oliveira et madame Kosik. Alors, madame Grollet.
C'est un sujet important, l'égalité entre les hommes et les femmes, et réciproquement d'ailleurs, qui donne lieu dans ce bilan de l'action municipale à un inventaire un peu obligé, listant des initiatives pour les droits des femmes, comme à côté de la Messine, le raid saharienne, qui témoigne contre les violences faites aux femmes, quand d'autres projets sont là, on a l'impression un peu pour faire nombre, comme la création de vestiaires femmes pour les équipes féminines du FC Metz au stade de Zavel, ben encore heureux qu'on fait cela. Et dans la batterie de statistiques qui nous sont fournies, on est aussi heureux d'apprendre qu'il y a plus de Messines que de Messins qui fréquentent les bibliothèques municipales et que c'est l'inverse pour les présidences d'associations. Quelqu'un a dit qu'elles étaient plus intelligentes, ben je ne sais pas si elles sont moins associatives, donc je n'en tire aucune conclusion personnellement. On a pu constater la cure d'amaigrissement du novembre de l'égalité, qui a été transformée en week-end de fabrique de l'égalité. Il me semble que c'est bien la preuve qu'il n'était pas forcément indispensable cet interminable et coûteux mois de communication qui diffusait quand même pas mal de slogans idéologiques comme les socialistes en raffolent. Il y a aussi, au milieu de nobles combats dans ce rapport, une dose d'idéologie qui torture la langue française, avec par exemple l'invention du terme « agente ». Ou bien lorsqu'on veut obtenir l'égalité d'emploi entre les hommes et les femmes, réciproquement, sur le chantier du Palais des Congrès. Attention de ne pas transformer l'égalité en égalitarisme. En matière d'égalité hommes-femmes, la municipalité est, comme de coutume, fière de son bilan. Mais il ne faut pas oublier combien la condition des femmes a été mise à mal chez nous, en France, par 5 ans de politique socialiste, avec l'augmentation de la pauvreté, la multiplication des inégalités, de la précarisation, notamment par la funeste loi El Khomri, les atteintes à la politique familiale et aux revenus des femmes retraitées. Chacun sait que les femmes sont les premières victimes de la précarité. Et ainsi, à la ville de Metz, on voit que les femmes sont concernées par 78% des postes précaires rémunérés à l'heure et 92% des postes à temps partiel qui ne sont pas toujours choisis. Votre politique n'est pas non plus exempte de cette dégradation. Quand vous sous-traitez des fonctions comme la propreté des locaux municipaux à des entreprises privées, avec pour les employés, généralement des femmes, une extrême instabilité puisqu'elles changent d'employeur au gré des appels d'offres, ce que Madame Bory comparait autrefois à un esclavage des temps modernes, quand elle était dans l'opposition, bien sûr. Elle demandait, et nous demandons toujours, un retour de ses fonctions dans le service public. Comme mon collègue Thierry Gourlot l'a demandé le mois dernier pour la DSP du stationnement en voirie, où ce sont les ASVP dont le statut est fragilisé. C'est donc un bilan contrasté, mais avec des résultats probants aussi. Comme à la tête des services municipaux, où vous avez, monsieur le maire, choisi une femme. Il paraît que c'est très rare parmi les DGS des grandes collectivités. Et en voyant ce point à l'ordre de ce conseil, j'ai tout de suite pensé et souhaité rendre hommage à son sang-froid lorsqu'au dernier conseil municipal, des perturbateurs venus exiger la réquisition des bâtiments publics et privés pour les migrants qui affluent à Metz, affluaient peut-être, si on croit le ministre de l'Intérieur, ont fait irruption dans la salle du conseil et jusque sur votre bureau, monsieur le maire. J'ai regardé attentivement une vidéo, l'enregistrement audio sur le site de la ville ayant été épuré de ce passage. C'est bien l'action efficace de madame la DGS de la ville de Metz qui a permis que cesse cette situation anarchique. J'en profite pour vous demander si une action en justice a bien été engagée contre les intrus qui ont entravé le fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Sachez que le laxisme, vous le savez peut-être déjà, conduit à la récidive. Dès le lendemain, ce comité d'extrême-gauchistes, adepte de la préférence étrangère, a dressé un mail aux élus pour se vanter d'avoir déjà gagné la bataille des images. Ce sentiment d'impunité s'explique-t-il par une proximité idéologique? On ne le sait. Il n'empêche qu'ils ne font après tout que porter à ces aboutissements logiques une politique d'appel d'air des clandestins dans notre pays. Il n'y a aucune raison pour que leur comportement cesse, et d'ailleurs, le campement se reconstitue déjà. On va voir, ça, je l'avais écrit avant d'avoir les informations d'aujourd'hui. Quand les lois ne sont pas respectées, voilà où l'on arrive. La misère pour tous, vrai comme faux demandeurs d'asile, et l'anarchie, comme ces associations nous l'ont montré au conseil municipal. Je vous remercie.
Merci, monsieur Aldrin.
Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Permettez qu'un homme puisse exprimer quelques idées sur ce sujet qui est évidemment important, tant il est vrai que les inégalités entre hommes et femmes demeurent, même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Et évidemment, la première chose sur laquelle ce rapport décrit une situation, c'est sur la politique des ressources humaines de la ville. Cela a été dit, ce rapport met en avant que la majorité des emplois précaires de la ville sont occupés par des personnes de sexe féminin. Pour autant, monsieur le maire, je n'aurais pas rédigé de la même manière ce qui est présenté dans le document pour dire « Oui, mais nous avons une directrice générale des services maintenant à Metz ». Parce que voyez-vous, moi je me réjouis que nous ayons une directrice générale des services à Metz, non pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle est compétente. Et je préférerais toujours une femme compétente à un homme incompétent, à un homme compétent à une femme incompétente. Ça, c'est un point important, c'est pourquoi il y a un ratio qui, moi, m'interpelle dans votre dossier, c'est sur la gestion des carrières, la promotion interne, qui concerne 75% des hommes et seulement 25% des femmes. Je crois que c'est le ratio le plus, si vous me permettez, inquiétant qui est présenté ici. Parce que nous devons offrir là aussi une égalité en termes d'avancement de carrière, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et là, manifestement, nous n'y sommes pas, puisque, je le répète, c'est 75% d'avancement de carrière pour les hommes pour seulement 25% pour les femmes. Deuxième élément sur lequel la ville peut évidemment jouer, c'est sur sa politique sociale avec le CCAS. Tant il est vrai que nous savons, plusieurs études l'ont montré, qu'il y a une forte corrélation entre le taux de pauvreté et un certain nombre de situations qui concernent les femmes monoparentales, les mères isolées. Et là aussi, je pense qu'on pourrait avoir une action plus forte sur cette question, et cela sera abordé probablement dans le point suivant sur les politiques sociales de la ville. Enfin, troisième élément, monsieur le maire, que je voudrais vous dire, ici, nous sommes dans une assemblée paritaire. La loi nous oblige. Il y a moitié homme, moitié femme.
Bonne loi.
Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres organes, dans d'autres institutions, on pourrait aussi aller dans ce sens. Je regrette, par exemple, qu'à l'UEM, vous avez désigné 6 administrateurs pour représenter la ville, qui sont 6 hommes. Alors maintenant, il n'y a plus de jetons de présence à l'UEM, donc il n'y a plus cette question-là, mais on pourrait avoir à une parité sur des organes aussi importants que l'UEM, où, je le répète, il y a 6 hommes sur 6 administrateurs de la ville s'agissant de l'UEM. Enfin, je voudrais terminer par une clarification sur un paragraphe qui m'a profondément gêné. paragraphe qui s'appelle « Sensibiliser les acteurs éducatifs et les enfants ». Moi, je suis évidemment à 2000% pour l'égalité homme-femme. Mais l'égalité homme-femme, ce n'est pas pareil que de dire l'égalité fille-garçon. Parce que fille-garçon, ça pose la question de l'altérité. Ce n'est pas la même chose. Et des théories qui vont derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce paragraphe-là, dans la manière dont il est rédigé, est profondément ambigu, on va dire ça comme ça. Et je souhaiterais que cette ambiguïté soit levée, parce qu'un garçon et une fille, ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que l'égalité homme-femme doit être un objectif poursuivi par derrière. Je souhaiterais vraiment que l'ambiguïté soit levée sur ce paragraphe qui me semble être important, je le rappelle, sensibiliser les acteurs éducatifs et les enfants. Merci.
Merci, Madame Nicolas.
Merci, Monsieur le maire. J'ai lu avec attention ce long rapport que vous nous présentez cet après-midi. Alors, naturellement, comme beaucoup de rapports, c'est une avalanche de chiffres, de statistiques et d'actions menées, notamment en ce qui concerne les violences faites aux femmes et de manière plus générale, la lutte contre la précarité des femmes. Actions qui, naturellement, ont leur importance si nous voulons faire bouger les lignes et faire évoluer les comportements. Au-delà du travail que constitue l'examen d'un tel rapport, moi, je me pose quand même des questions. Est-il vraiment opportun de demander aux collectivités territoriales d'examiner chaque année des rapports du même ordre ? Les choses peuvent-elles changer radicalement d'une année sur l'autre ? Devrons-nous chaque année examiner à la loupe ces fromages, ces schémas, ces diagrammes, ces tableaux avec les différences de formation, de diplômes, de qualifications entre les femmes et les hommes ? On contraint, on décontraint, on recontraint, on se félicitera de certaines actions entreprises en direction des femmes et on recommencera naturellement l'année suivante. Alors bien sûr, nous aurons respecté la loi, puisque c'est elle qui nous l'impose, mais aurons-nous fait avancer la condition des femmes et les discriminations dont elles font l'objet ? Ceci ne peut se faire qu'au travers d'une politique volontariste, certes compliquée à mettre en œuvre, parce que les mentalités, et notamment les mentalités masculines, sont difficiles à changer. Et puis il y a pour la ville de Metz des chiffres peu flatteurs, ça a été relevé. 78% des postes les plus précaires occupés par des femmes, 78% des postes de direction de pôle occupés par les hommes. Quand on atteint comme ça 80% à 80%, est-ce qu'on a besoin d'un rapport pour s'en rendre compte ? Est-ce qu'il ne suffirait pas tout simplement d'ouvrir les yeux ? Alors moi je crains, et là je ne suis pas fan de ce genre de rapport, que ça finisse comme d'habitude dans un tiroir et que les enseignements qu'il contient ne servent en rien à améliorer la situation des femmes. D'ailleurs, de l'aveu même des rédacteurs de ce rapport, à Metz, la lutte contre les discriminations, et c'est ce qui est écrit dans le rapport, est peu mobilisée sur le critère du sexe. Alors, preuve qu'en matière d'égalité, le chemin va encore être long pour les femmes, et ce n'est pas ce genre de rapport qui changera quoi que ce soit. Je vous remercie.
Merci, Madame Zimmermann.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je suis au regret de dire que je vais aller complètement à l'encontre de ce que je viens d'entendre des uns et des autres. D'abord, je tiens à féliciter les services de la ville d'avoir réalisé un tel rapport. Premièrement, c'est la loi qui l'exige. Et si on a légiféré en 2012 avec Sauvadet, sur la fonction publique, sur la fonction territoriale, sur la fonction hospitalière. Si on a légiféré en 2014 avec Nadja Vallaud-Belkacem, qui a complété la loi de Sauvadet, c'est qu'effectivement, il y avait des difficultés quand simplement à la place des femmes dans l'administration, dans les collectivités. Donc, dire qu'un tel rapport est inutile, vraiment, je regrette d'entendre ça, parce que c'est avec des rapports chiffrés que l'on arrive à faire évoluer la carrière des femmes et des hommes, à la fois dans l'entreprise, comme dans les collectivités, comme dans l'administration. Pourquoi on a légiféré dans l'administration ? Tout simplement parce que naïvement, on s'est imaginé que c'était l'égalité. Eh bien non ! J'ai une de mes collègues, Françoise Guégot, qui, mandatée par le président Sarkozy à l'époque, avait fait un rapport où, effectivement, il y avait des inégalités criantes. Et aujourd'hui, ce sont ces rapports-là qui permettront, dans 5, 6, voire 7 ans, d'avoir vraiment une lisibilité sur la carrière des femmes, des hommes, dans les collectivités, et permettre notamment à celles qui aujourd'hui sont dans les catégories C, dans les catégories B, d'arriver aux catégories A, d'arriver dans les postes de direction. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde les tableaux, voilà, vous êtes à la ville de Metz, exactement au même niveau que dans toutes les autres collectivités. Et je vous assure que pour avoir quand même bien travaillé la question, pour continuer à la travailler, et depuis deux jours la travailler encore plus avec toutes les attaques que l'on a sur le droit des femmes, je peux vous assurer que ce rapport, il me servira tout simplement pour donner en quelque sorte l'exemple de ce qu'est le rapport de situation comparée que j'ai défendu pendant 10 ans, que Sauvadet a maintenu dans ses rapports, que Najat Vallaud-Belkacem a maintenu dans ses rapports, et chiffrer, on ne peut pas, et c'est imparable à ce moment-là, de voir qu'il peut y avoir une différence entre les postes de direction où on est à 20-25%, les postes catégorisés où on est à 80%. Et ça permet, notamment dans ces rapports, et là aussi où je tiens à vous féliciter, parce que c'est tout simplement la loi qui l'exige, mais vous l'avez très bien rédigé, c'est d'abord les rémunérations, les formations, parce que c'est là où ça pêche, parce que lorsqu'on parle notamment de congés de maternité, de congés parentaux, etc., c'est vrai, sauf que il y a également la diversité de propositions de formation qui fait que la carrière des femmes n'est pas la même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une directrice générale des services, oui, 6% des collectivités en ont, et honnêtement, c'est très bien que Metz ait réussi à l'avoir, d'autant plus que votre directrice a fait ses preuves dans d'autres collectivités où elle a vraiment été non seulement à la hauteur, mais elle a été à l'initiative de projets qui, j'ose l'espérer, lui permettent d'avoir, d'une part, une solidité à la fois sur les dossiers techniques, parce que c'est là aussi où il y a peut-être des corrections à apporter au recrutement, c'est effectivement dans les domaines techniques où il y a peut-être un petit peu moins de gens, mais il est certain qu'aujourd'hui, ce rapport, il est impeccable, premièrement. Deuxièmement, il permet, parce que c'est ça, la richesse d'un tel rapport, c'est qu'il permet de corriger des politiques sociales. Parce que c'est à partir de vie professionnelle, vie familiale, qu'on peut voir qu'il y a ou non une réponse de la collectivité. Et ce rapport, justement, moi je souhaite qu'il soit fait régulièrement et tous les ans, comme l'exige la loi, parce que c'est à partir de là que l'on verra à la fois l'évolution et que l'on verra comment les politiques proposées par la collectivité permettent aux femmes de réussir leur carrière et d'avoir la reconnaissance de leur compétences. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, ce que je voudrais simplement dire, c'est que votre rapport où vous n'étiez pas obligé effectivement de par la loi d'y mettre les politiques que vous mettez dans la ville, complète et permet à ce moment-là d'avoir une vue avec le deuxième rapport que la fameuse convention avec sur les territoires. On voit à ce moment-là vraiment l'image de la ville et on voit dans quel domaine il va falloir travailler au niveau notamment du CCAS, au niveau des services sociaux, au niveau de toutes les techniques qui sont des réponses aux femmes. Excusez-moi d'avoir été un petit peu longue, mais je crois, si vous voulez, que je voulais souligner que je suis très heureuse, moi, de voir un tout petit peu simplement le fruit de mon travail avoir une ville dans laquelle je suis conseillère municipale et où je vois qu'on respecte les lois.
Merci madame. Monsieur Cambianica.
Oui monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais dire que je souscris à 120% aux propos de Mme Zimmermann. Déjà, ça clarifie les choses. Ensuite, je voulais quand même corriger une grossière erreur commise par un des répondants de l'opposition. Les entreprises de nettoyage, lorsqu'elles sont changées, que ce soit dans les entreprises privées ou dans la ville, eh bien, si l'on garde les personnels, ce n'est pas pour les trimballer, mais c'est justement pour protéger des personnes qui sont économiquement fragiles. Et donc, même si on change l'entreprise, la personne qui a ce travail, eh bien, elle va le conserver parce que c'est le législateur qui l'a voulu et c'est donc une protection de ces personnes fragiles. Ça me semblait être nécessaire de mettre au point. Là où, par contre, je suis plus circonspect, c'est sur le terme « genre » qui est utilisé dans le graphe de la page 28. C'est utilisé en lieu et place du terme « sexe », je ne sais pas pourquoi, mais même si son utilisation grammaticale ou orthographique est correcte, elle est connotée et moins précise que le terme « sexe ». Donc, il me semblerait plus logique d'utiliser le terme « sexe ». Ensuite, je voudrais profiter de ce point pour m'interroger sur l'existence d'un comité éthique au niveau de la ville de Metz, car cela fait partie des engagements de Dominique Gros, maire de Metz, à la charte anticor. Je sais aussi que nombre de processus sont déjà en place sur la ville et pourraient y abonder sans problème. Je pense à la CAO, je pense à la charte des rapports entre élus et personnels municipaux, etc. Donc, je serais heureux qu'on concrétise tout ce travail qui est fait au niveau de la ville de Metz par la mise en place d'une charte d'éthique comme cela a été, comme le maire en avait pris l'engagement. Voilà, je vous remercie.
Merci. Madame Bory.
Monsieur le maire, chers collègues, moi aussi je me réjouis de ce rapport. D'une part parce que ce rapport met à mal des idées reçues. Et une des idées reçues couramment et qui est couramment répandue, c'est celle qui consiste à penser effectivement que les inégalités femmes-hommes n'existeraient pas dans la fonction publique. Or, comme nous pouvons le constater de son rapport, il n'en est rien, puisque nous voyons qu'il y a des inégalités. D'ailleurs, dans la fonction publique comme dans le privé, d'ailleurs, les femmes se heurtent à un plafond de verre, celui des écarts de salaire. Concernant la fonction publique, cette inégalité ne réside pas dans la grille des salaires, puisque selon les catégories, on a la même grille de salaire, mais bien dans le déroulement de carrière. Et les femmes et les hommes n'évoluent pas de la même manière, et cela pour plusieurs raisons. Parce qu'elles occupent plus que les hommes les emplois précaires, ça a été dit, qui ne favorisent pas facilement la promotion. Parce qu'il y a aussi la maternité, et oui, les femmes sont enceintes et elles ont des congés maternité, et qu'elles assument encore l'essentiel des charges familiales, qu'elles ont plus souvent que les hommes recours au temps partiel pour élever les enfants, et que plus que les hommes, elles prennent les congés pour les enfants malades. Et même si aujourd'hui les pères s'impliquent davantage, il n'en reste pas moins vrai que les femmes ont beaucoup plus de mal à concilier vie professionnelle et vie familiale. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas du superflu, c'est le cœur d'une politique qui bâtit l'avenir. L'histoire montre que le progrès des conditions de vie des femmes profite à toutes et à tous au sein de la cité comme dans le monde du travail. Aussi, avec ce rapport, nous affirmons une volonté politique et aussi des actions et des moyens d'action pour lutter contre ces inégalités. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'on devienne une ville exemplaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Nathalie de Oliveira.
Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, c'est encore pour demain. Entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, c'est encore pour demain. Le dernier rapport du Forum économique mondial, qui a été publié le 26 octobre 2016, parle de l'horizon 2186. Nous avons donc encore 70 ans devant nous. Pour l'égalité salariale réelle. Alors, en France, évidemment, et Mme Zimmermann vient nous le rappeler, il y a eu des combats, notamment le sien, en faveur, évidemment, du droit à l'émancipation, du droit, évidemment, à un salaire égal et à un traitement égal des femmes au travail. Nous ne sommes pas extrêmement bien classés en la matière, puisque ce rapport mondial nous classe 134e sur 144 pays considérés. Dans la vie au travail, nous savons que 5 fois plus que les hommes, les femmes continuent d'exercer des métiers peu qualifiés, mal rémunérés, notamment à temps partiel, et nos collègues viennent de nous le dire, dans le prolongement des tâches domestiques d'exécution, pour ne citer que Pierre Bourdieu. Alors évidemment, il faut reconnaître des politiques publiques volontaristes, celle de la ville de Metz en est une, et ce rapport le prouve. simplement évidemment pour renforcer, permettre et faciliter évidemment le choix des femmes à poursuivre des carrières évidemment et d'aller le plus loin possible, notamment en ce qui concerne l'égalité de rémunération, mais aussi évidemment dans l'engagement politique. Et nous sommes ici un certain nombre de femmes à siéger en toute parité. Et je pense aussi évidemment à ces élections cantonales qui ont permis une parité effective, réelle, totale, pour nous classer 19e sur 27, ce qui n'est pas ce qui peut rendre jaloux un certain nombre d'États, y compris encore en Europe. Et évidemment, une condition sine qua non pour avancer, continuer et réussir ce combat évidemment de l'égalité réelle et au travail en particulier, comme le sous-entendait M. Aldrin, c'est évidemment que ce combat soit mené également par les hommes, pour les femmes et avec les femmes. Ça, c'est une évidence. Je nous félicite donc de ce rapport qui pose un diagnostic de façon courageuse, complète, et qui vise à respecter au millimètre, évidemment, les droits de chacun, de chaque agent de la ville de Metz, femmes et hommes, hommes et femmes, dans le respect de cette loi, en tout cas une des dernières, du 4 août 2014, pour l'égalité réelle, contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans les sphères privées, professionnelles et publiques. Le combat continue donc et il appartient à chacun de nous.
Merci Madame. Madame Kosik.
Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. Simplement pour rappeler, comme l'a dit Madame Zimmermann, l'importance du travail législatif dans ce cadre-là pour essayer de trouver des améliorations à ce problème complexe, à ce problème sociétal, et on voit bien au-delà des clivages politiques. Alors simplement pour expliciter quelques questionnements ou quelques éléments qui ont été soulignés, la question effectivement qu'on voit dans le rapport de la différence par rapport aux 100 salaires les plus élevés, la différence en faveur des hommes. Il y a quand même une explication qui est liée en réalité à une présence plus importante des hommes dans la filière technique, et à une présence évidemment plus importante des hommes dans la filière technique, dans l'encadrement de la filière technique. Or, dans le statut de la fonction territoriale, les ingénieurs sont mieux rémunérés que les cadres administratifs. Donc c'est aussi ça qui explique ce différentiel, ce qui veut dire qu'évidemment, un des objectifs qui doit nous animer, c'est pouvoir développer la mixité dans l'ensemble des filières. Moi, je pense qu'on peut imaginer que l'évolution technologique, la mécanisation, va permettre aussi de pouvoir recruter des femmes dans les filières techniques. Donc ça, c'est un premier élément. Mais surtout, il conviendra de façon tout à fait significative d'augmenter l'encadrement dans ces filières techniques par les femmes, parce que c'est la féminisation de l'encadrement qui fait bouger toute une filière. Je pense que ce raisonnement doit être le même à l'inverse dans la filière administrative, parce que, où les hommes sont minoritaires, parce qu'il faut que nous considérions que le concept d'égalité s'appuie sur la conviction que la mixité apporte une valeur ajoutée, quel que soit le métier, quelle que soit la filière. Concernant le management, hein, puisque c'est pour moi un des éléments moteurs à l'évolution. Alors, évidemment, on l'a souligné, la ville de Metz fait partie des 6% des collectivités à avoir dans son top management la patronne des services, et on s'en réjouit tous. C'est beaucoup moins vrai dans les directions de pôle, mais là vous êtes sur des chiffres 2015. Je peux vous dire qu'en 2016, d'où l'importance de ce que vous avez dit, d'avoir un rapport qui nous permet ensuite de regarder l'évolution dans la durée, puisqu'en 2016, on a vu augmenter l'embauche des femmes sur les directions de pôle. Alors ce sont des chiffres qu'il conviendra d'observer chaque année, mais à partir de ces chiffres, les partenaires sociaux, au sens large, c'est-à-dire l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales, se dotent d'un plan d'action. Lorsque l'on sait en plus que lors des prochaines élections professionnelles, la parité dans l'ensemble des institutions représentatives du personnel sera obligatoire, ce sera un progrès tout à fait important. Alors, il se trouve qu'à la ville de Metz, on a quand même déjà globalement une mixité respectée, à la fois au CHSCT, à la fois au comité technique. Mais c'est vrai que cette modification législative lors des prochaines élections professionnelles sera tout à fait essentielle, puisque c'est dans ce cadre qu'on va mettre en place des leviers pour favoriser l'égalité professionnelle. Parce que qu'il s'agisse d'outiller les responsables du recrutement, de développer une meilleure articulation, on l'a dit, des temps de vie personnelle, professionnelle, de prévenir les violences au travail, ces orientations sont une vraie avancée qui nous permettra sans doute pas d'attendre, comme l'a dit Nathalie de Oliveira, en tout cas on l'espère, 118 ans, pour avoir une communauté de travail plus égalitaire.
Merci, merci madame. Écoutez, merci pour ce débat. C'est un débat, vous allez me donner acte du débat, parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit. Et donner acte, c'est une formule nouvelle qu'il va falloir employer de temps en temps quand il n'y a pas de vote, si je puis dire. Hein, je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'important, ce n'est pas seulement l'état des lieux, c'est la tendance. Et si vous avez observé soigneusement la page 21 du rapport, il y a deux graphiques qui sont à regarder de près. Le premier, c'est la répartition homme-femme par tranche d'âge. Vous vous apercevez que dans les nouvelles générations, les femmes sont davantage représentées que les hommes. Et que dans les anciennes générations, les hommes sont davantage représentés que les femmes. C'est assez important, puisque entre 55 et 59 ans, on a 178 hommes pour 143 femmes. Alors que dans les nouvelles générations, c'est dans l'autre sens. Plutôt dans l'autre sens, vous voyez, 76 contre 67, par exemple. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on fait passer les concours, on s'aperçoit que les jeunes filles réussissent bien les concours dans la fonction publique territoriale et qu'elles sont en train d'occuper les places tranquillement parce que c'est leur droit le plus strict et c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, parce qu'elle n'a pas été faite, et je dirais même que l'aveuglement de l'examen de tout ce qui est à temps partiel. Vous savez, les personnes qui font traverser les rues, qui travaillent 2 heures ou 4 heures par jour parce qu'elles s'occupent en même temps des cantines, c'est-à-dire où il y a un grand nombre de... Et ce sont des gens qui ne sont pas fonctionnaires. Et ce sont des gens qui ne correspondent pas effectivement au statut dont j'ai parlé tout à l'heure avec un examen, avec un concours. Et là, ça se passe en bas de la page 21. Je trouve que c'est très intéressant parce que si vous additionnez les cadres B et les cadres A, dans la ville de Metz, vous vous apercevez qu'il n'y a pas plus, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que dans l'encadrement global de la ville, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors faisons les comptes, puisque personne ne l'a remarqué. Dans la catégorie A et B chez les femmes, il y a 9% plus 20%, 29% de femmes dans ces catégories, qui sont les catégories supérieures, celles d'encadrement et de cadre de la ville. Tandis que parmi les hommes, il y a 7% plus 13 égale 20%. Si vous faites le rapport 29 sur 20, vous trouvez qu'il y a 45% de plus de femmes que d'hommes dans les fonctions d'encadrement, c'est-à-dire cadre B et C à la ville de Metz. C'est-à-dire que nous sommes déjà une ville ici qui a une majorité de femmes dans les systèmes de décision et d'encadrement. Ça ne veut pas dire que ce soit idéal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on rééquilibre, puisque ça va, d'après ce qu'a dit Mme Kosik, elle a laissé entendre que les chefs de pôle, on peut concevoir aussi, regardez les personnes qui sont derrière moi, il n'y a pas qu'une directrice générale des services, ça ne vous a pas échappé non plus. J'ajouterai que ça fait longtemps que je pratique cette politique, ça ne vous a peut-être pas échappé non plus, et que par exemple, la personne qui dirige le plus de monde dans toute la Moselle, et que j'ai eu l'occasion de recruter, c'est la directrice générale de l'hôpital de Metz, CHR, qui est une femme. Et c'est de loin la personne... Et c'est la succédée, mais la précédente, c'est moi qui l'avais recrutée, celle-là, oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, il y a ici une volonté, quand les occasions se présentent, après ça. Et Mme Zimmermann l'avait vue, je la remercie. Madame Zimmermann l'avait vu, je la remercie. J'ai des souvenirs de batailles farouches quand j'étais chef de division à l'agence de l'eau et qu'il y avait un ingénieur de mon service qui était une femme, qui avait des grossesses, une personne qui a eu 3 enfants. Chaque fois, on a pris en compte ses dossiers et on lui a rendu scrupuleusement son retour. Et croyez-moi qu'il y avait pas mal de gens qui avaient envie de lui piquer son boulot. Parce que ça suppose aussi un état d'esprit, des décisions avec le caractère que la grossesse n'est pas une maladie, qu'il faut bien qu'on se reproduise, nous aussi les hommes, hein, et que dans ces conditions-là, il est hors de question de toucher aux dispositifs qui permettent à quelqu'un d'exercer son travail en ayant eu des enfants. Alors, je vous remercie de m'avoir donné acte